sais pas si j'ai eu l'occasion de souhaiter la bonne année à tout le monde, mais je vais le faire. C'est pas interdit de faire des vœux, hein, dans la Bible. Voilà, que le Seigneur nous bénisse ensemble, qu'il bénisse le témoignage de son Église, de chacun de nous, là où il est, où elle est, et qu'ainsi son règne progresse tout autour de nous. Alléluia.
Amen.
On va ouvrir l'Écriture, et je vous invite à le faire au livre du prophète Daniel, pour commencer. Daniel, au chapitre 7. Beaucoup d'entre vous savent déjà de quoi il s'agit. Daniel 7, nous allons lire les versets... Voilà. Les versets 13, 14 et 21 à 22. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, c'est-à-dire Dieu, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Verset 21. Je vis cette corne, cette puissance, faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit ou rendre justice au sein du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent mis en possession du royaume. Maintenant, nous allons dans l'évangile de Luc, chapitre 17. Luc, chapitre 17, verset 20. Les pharisiens demandent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas, « Il est ici » ou « Il est là », car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Certaines versions disent « au-dedans de vous ». Et il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme. » Donc Jésus a lu Daniel 7. Hein. Et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Je veux dire simplement que ce sera tellement bref qu'on n'aura pas le temps, on sera saisi. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie, il la perdra. et celui qui la perdra le retrouvera. Je vous le dis, cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Les disciples lui dirent, « Où sera-ce, Seigneur ?» Et il répondit, « Où sera le corps ? Là s'assembleront les aigles. » Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il ne considérait pas les gens selon leur apparence. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, m'embête, je ne m'appelle pas Macron, hein, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » D'autres versions traduisent « de peur qu'à la fin, elle ne me frappe au visage ». André Chouraki a même osé traduire qu'elle ne me poche un œil. Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? J'ai toujours été impressionné par cette question. Les fera-t-il attendre ? D'autres versions l'affirment au contraire. Et il les fait attendre. Alors, il faudra qu'on essaie de comprendre ce que le Seigneur veut dire par là. La prédication de Jésus concernant le royaume des cieux a été suivie de quelques dizaines d'années avant qu'on écrive les évangiles. Quelques dizaines d'années, ça fait du temps. Et rien, semble-t-il, ne s'est produit entre deux. Le temps s'allonge. La première génération des témoins commence à disparaître. La fracture entre les communautés chrétiennes et la synagogue s'aggrave. L'Empire de Rome durcit sa politique et rien ne semble annoncer la moindre lueur d'espoir. Le temps s'allonge et le silence de Dieu pose problème. C'est ce que vivent les premières générations chrétiennes et c'est peut-être ce que nous vivons aussi. Jusqu'à quand ? Combien de fois dans la Bible il y a cette question ? Dans les psaumes. Même Jésus l'a dit une fois, « Jusqu'à quand vous supporterai-je ? » Oui, notre patience est mise à l'épreuve. Alors certains s'abandonnent au désespoir et perdent pied. D'autres cherchent diverses explications. D'autres encore se moquent. L'apôtre Pierre en parle dans sa lettre. Il viendra des moqueurs avec leurs railleries en disant « Où est la promesse de son avènement ? Depuis que les pères sont morts, rien n'a changé. » Et Pierre ajoute « Mais ils oublient que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. » Il faut donc, selon les rédacteurs des Épîtres et des Évangiles, il faut rappeler les paroles du Maître. N'avait-il pas averti, mis en garde, de nombreuses fois contre toute impatience, contre les faux prophètes qui se lèveraient. N'avait-il pas clairement dit aux disciples, ça c'est dans le livre des Actes, au chapitre 1er, verset 7, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Personne ne sait ni le jour ni l'heure, ni les anges des cieux, ni le Fils. » Vous avez bien entendu ? Ni le Fils, mais le Père seul. Alors, comment vivre ce temps d'attente ? Jésus prononce une parabole, celle du combat d'une veuve contre un juge dur de cœur, qui ne craint pas Dieu et qui ne considère pas les personnes. Ça m'a un peu fait réfléchir, ça. Il n'a pas de crainte de Dieu, en cela, c'est un juge unique, d'accord. Mais un juge qui ne regarde pas aux apparences, c'est biblique. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit, quand tu exerceras la justice, tu ne favoriseras personne. Ni le riche parce qu'il est riche, ni le pauvre parce qu'il est pauvre. Donc il y a quand même quelque chose de... Il est dans son rôle, en fait. Il est dans son rôle, mais en plus, il ne craint pas Dieu. Et ça, c'est la source de l'iniquité. Cette parabole se termine. Elle termine le discours de Jésus que nous avons lu depuis le chapitre précédent. Elle fait partie du discours de Jésus, ce qu'on appelle un discours eschatologique. Pardon pour ce gros mot, ce qui concerne les temps de la fin. Donc Jésus inclut dans son discours cette histoire. En effet, elle se termine par sa question fameuse, en rapport avec sa venue à la fin de l'histoire. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Comprenons bien cette question. Il ne s'agit pas de religion. Pas du tout. Parce qu'il en trouvera des religions, de toutes sortes, y compris celles qui dominent actuellement le monde, la religion économique. Il en trouvera. Mais trouvera-t-il la foi ? Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Trouvera-t-il cette aspiration obstinée à l'établissement définitif et complet du règne de Dieu, c'est-à-dire au triomphe de la justice ? Aura-t-on baissé les bras ? Aura-t-on oublié le sens de l'histoire ? Aura-t-on oublié l'espérance qui est devant nous ? Voilà la question que Jésus nous pose. Dans cette histoire, il met en présence deux êtres que tout oppose. Un homme puissant, un magistrat, bien installé, pignon sur rue, solide, et qui ne craint pas Dieu. Et de l'autre côté, une femme seule, sans protection, une veuve. À l'époque de Jésus, devenir veuve signifiait perdre toute sécurité sociale. S'il n'y avait pas d'enfant, s'il n'y avait pas un oncle, un parent, quelque chose, une femme veuve était vraiment démunie de tout, exposée, fragile, vulnérable. Mais en premier, Jésus attire notre attention sur le personnage le moins sympathique de cette histoire. En effet, il conclut ainsi, « Entendez ce que dit ce juge inique. » Jésus nous fait entrer dans les ruminations de cet homme. Comment pourrais-je exaucer les demandes de cette veuve sans perdre la face, sans ternir ma réputation d'homme inflexible, d'une justice implacable ? Au fond, c'est une caricature que Jésus dessine là. Une caricature de magistrat. afin de mieux marquer la différence entre ce juge et Dieu. Ce Dieu qui est un Dieu d'amour, de compassion, de bonté. Cette parabole s'appuie non pas sur des similitudes, mais sur des contrastes. Et Dieu, qui n'est pas comparable à ce juge, ne ferait-il pas justice à ses élus ? C'est-à-dire que la veuve n'est pas comparable à la communauté des croyants, à l'Église. Celle-ci, l'Église, n'est pas sans protection. Elle n'est pas seule et abandonnée. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous, parmi nous, au-dedans de nous. Tu ne peux pas être plus près. Alléluia. C'est une communauté d'élus. Celles et ceux que Dieu a élus. Si Dieu n'entendait pas nos prières, il se contredirait. Romains 8, 33. Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Vous avez conscience ? Avons-nous tous conscience que nous faisons partie des élus de Dieu ? En Jésus-Christ, nous sommes devenus des élus de Dieu. Dieu a pris notre parti. Nous sommes élus par lui. Dieu fait partie d'un parti, pas politique, mais d'un parti pour les hommes et les femmes. Dieu est pour nous, avec nous, de notre côté. Nous sommes ses élus. Il n'est pas notre ennemi. Nous ne lui sommes pas indifférents. Il nous aime avec tendresse. Croyons-le fermement. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore là, cette fois-là, sur la terre ? L'incessante requête de la veuve « Fais-moi justice de ma partie adverse » s'inspire aussi de Daniel chapitre 7, c'est le verset 22. « Il fera justice au sein du Très-Haut, faire justice, c'est-à-dire combler ce qui nous manque. Nous vivons dans un manque spirituel, aussi longtemps que le Seigneur n'est pas revenu. C'est la spiritualité, ce que j'appelle la spiritualité du manque. Nous ne sommes pas encore comblés, mais nous attendons cette venue qui comblera nos attentes. Il y a un cantique qui dit « Tu combleras tous nos vœux. Bientôt, glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux. Sur la nue étincelante, tu viendras à nous des cieux. » Avons-nous encore cette foi-là, ferme ? Comment la veuve va-t-elle pouvoir dépasser l'obstacle qui ferme sa route ? Elle en vient à bout grâce à sa détermination, à son obstination. Elle en devient même menaçante. L'homme finit par avoir un peu peur. Elle ne lui laisse qu'un seul moyen d'avoir la paix, céder et lui rendre justice, fléchir. Eh bien, nous avons un Dieu qui s'est laissé fléchir. Il s'est laissé fléchir à un point tel qu'il vient mourir sur une croix. Jésus, c'est Dieu qui a fléchi. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Et tu es la faiblesse de Dieu. Tu le fais craquer. Toi qui te réfugies dans le nom de Jésus, il craque pour toi. Il fléchit pour toi. Il t'aime et il veut exaucer tes vœux. Amen. Avons-nous cette confiance encore ? Alors, quelques indications. D'abord, Luc écrit... Il leur dit cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier sans se décourager. Bien sûr, ce conseil-là, il vaut pour toutes sortes de prières, n'importe quelle prière. Mais je crois plus encore pour une prière particulière, celle qui est orientée vers la venue du jour du Fils de l'homme, sur les nuées du ciel. afin qu'il établisse pleinement le règne de Dieu sur la terre comme au ciel. La prière enseignée par Jésus aux disciples, ce qu'on appelle le Notre Père, est entièrement tournée vers cette espérance, vers la venue du jour de Dieu et de l'établissement de son royaume. La prière enseignée aux disciples est tournée vers cela totalement. Jésus semble indiquer même que la prière persévérante des siens a un rôle à jouer dans cette venue du règne de Dieu. Et je ne sais pas si nous en avons toujours conscience. Quand nous disons « Seigneur, que ton règne vienne », quand nous le disons jour et nuit, quand nous le disons avec obstination, oui, Dieu entend. Et cela donne à Dieu des droits sur notre monde, des droits sur les grands de ce monde, des droits sur les puissances démoniaques, des droits sur tout l'univers, quand des hommes et des femmes sur la terre, jour et nuit, crient « Que ton règne vienne !» Dieu entend. Et il peut répondre à tout ce qui s'oppose à cette venue du royaume, à tout être qui pourrait s'opposer à la victoire de Dieu, des êtres spirituels, puissants, démoniaques, mais aussi des hommes. Parce qu'il y a des hommes sur la terre aujourd'hui qui s'opposent au royaume de Dieu. Ils sont manipulés, ils sont dominés, ils sont possédés, certains. Ne me dites pas que ce n'est pas vrai. Relisons l'histoire de ce 20e siècle, simplement. Prions sans cesse. Prions sans cesse pour la venue du royaume. Priez toujours sans se décourager. Deuxième remarque que je voudrais faire, ne pas se tromper d'ennemi. Il s'agit d'affronter donc ces puissances spirituelles de ce monde, ce que Paul appelle les éléments de l'univers. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire les êtres humains, mais contre ce monde spirituel qui domine le monde. L'Église de maintenant fait-elle toujours monter à Dieu cette incessante prière ? Je crois vraiment que le Saint-Esprit désire ardemment ranimer cette prière dans nos cœurs. Vous savez, le réveil de l'esprit, enfin de la Pentecôte, qui remonte, disons, au début du XXe siècle, ce réveil qui s'est répandu partout, a remis sur le devant de la scène l'espérance du retour de Jésus. Beaucoup l'avaient oublié, notamment les églises qui avaient parti liées avec les puissances politiques, qu'elles soient royales ou républicaines. Les églises, souvent officielles, s'étaient installées confortablement dans les rouages de ce monde, dans sa philosophie, dans ses valeurs. Le Saint-Esprit est venu bousculer tout cela. Et il faut qu'il bouscule encore tout cela. L'Esprit veut donner à nos cœurs sa prière. Quand nous prions que ton règne vienne, c'est la prière du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. Nous ne savons pas toujours demander ce qu'il faut. Mais l'Esprit vient lui-même par des soupirs inexprimables prier sa prière en nous. Cette prière nous met à l'unisson de la création tout entière, voyez-vous, car elle aussi soupire après la révélation des fils de Dieu. Elle aussi attend ardemment la délivrance. Aux pharisiens qui demandent quand viendra le règne de Dieu, Jésus répond apparemment un peu à côté. Vous savez, c'est un peu comme ce célèbre sketch de Raymond Devos. Quelqu'un va au guichet de la gare prendre un billet pour quand ? Bon, l'employé répond, mais je ne peux pas vous dire pour quand si vous ne me dites pas pour où. Vous ne connaissez pas ce sketch ? C'est un quiproquo, hein ? Eh bien, c'est un peu ça, il y a un quiproquo. Les pharisiens demandent quand ? Jésus ne leur répond pas par quand, mais il va leur dire, on ne dira pas, le voici, le voilà. Il ne viendra pas de manière observable à l'œil. Les pharisiens envisageaient probablement un territoire, le leur, Israël. Pourtant, dit Jésus, voici le lieu du royaume de Dieu. Il est déjà là, parmi vous, au-dedans de vous. Leur refus de reconnaître en Jésus le Messie les empêche d'en avoir conscience. Le lieu du règne de Dieu, c'est un non-lieu. Un non-lieu. Il est au-dedans de vous. Il est parmi vous, comme en secret. Il est là où est l'Esprit du Seigneur. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, vous connaissez le dialogue entre Jésus et la femme samaritaine. Elle voulait savoir où était le lieu favorable pour prier Dieu et lui être agréable. Nous, on dit c'est sur le mont Garizim, vous les Juifs dites c'est à Jérusalem. Que répond Jésus ? Ni l'un, ni l'autre. C'est en esprit et en vérité. C'est une utopie, au vrai sens du mot. Prier, le royaume de Dieu, c'est une utopie, un non-lieu. Ce qui n'empêchera pas d'espérer un jour où le règne de Dieu couvrira toute la terre, bien entendu. Mais pour le moment, on ne peut pas le situer. Puis il s'adresse aux disciples et il leur annonce un long délai d'attente, difficile à vivre. Des jours viendront où vous désirerez de voir un des jours du Fils de l'homme, un seul des jours, et vous ne le verrez pas. Jésus fait encore allusion à la prophétie de Daniel 7, selon laquelle le Fils de l'homme viendra sur les nuées du ciel et recevra la royauté universelle et éternelle. C'est ce que les disciples aspirent, demandent, et ils ne le verront pas. Ils désirent ce jour, mais rien ne se passera comme ils se l'imaginent. Vous ne verrez pas ce grand jour tel que vous le désirez. Vous verrez le contraire. Vous allez voir le Fils de l'homme cloué sur une croix comme un malfaiteur maudit entre deux brigands. Voilà ce que vous allez voir. Entre parenthèses, il me semble qu'il y a quelque chose de très fort dans cette scène de la crucifixion de Jésus entre deux brigands. C'est une scène royale. Seuls ceux qui ont la foi et l'esprit peuvent le comprendre. Un roi avec ses principaux personnages à gauche et à droite. Vous savez que les disciples avaient demandé à Jésus d'être assis, l'un à gauche, l'autre à droite. En fait, ils réclamaient la place des brigands. Quelle ironie, n'est-ce pas ? Voilà ce qu'ils vont voir, tout le contraire de ce qu'ils attendent. Vous ne verrez pas ce grand jour tel que vous le désirez. Vous verrez le contraire dans un court délai. Ils verront leur Seigneur en croix, traité comme un malfaiteur. Vous-même serez, à la suite de votre Seigneur, persécuté. Vous n'allez pas installer le royaume de Dieu comme ça. Plus tard, au cours de l'histoire, on vous dira, le voici, le voilà. Ne partez pas, n'y allez pas. Il y aura des faux Christ et il y aura des faux prophètes. Qu'est-ce qui leur permettra de traverser cette période troublée, déstabilisante ? La foi. La foi, la confiance. Et ça n'a pas changé pour nous aussi. Nous devons garder confiance dans les promesses du Seigneur, dans son règne tout-puissant. Une autre remarque m'est venue à l'esprit. Ils ne devront pas céder à la tentation de l'immédiateté. Aujourd'hui, il existe un courant évangélique appelé dominionisme, je crois. Chose comme ça, hein, si je ne me trompe. Ce sont des gens qui aspirent à prendre le pouvoir sur la société et de lui imposer des valeurs chrétiennes, comme si elles pouvaient être imposées. Ce sont des impatients. Ils pensent pouvoir devancer l'agenda de Dieu, du Père. L'agenda qu'il a fixé de toute éternité et que personne ne connaît. En réalité, ce n'est pas une vision d'avenir. C'est ringard. C'est plutôt un rétropédalage vertigineux vers le IVe siècle de notre ère, c'est-à-dire l'ère constantinienne, où la conversion de l'empereur Constantin a fait entrer l'Église, malheureusement, au rang des puissances du monde. Certains sont nostalgiques de cela. À Dieu seul appartient le déroulement de l'histoire. Ça nous a été rappelé tout à l'heure. Vous avez écouté le message ? À Dieu seul appartient le déroulement de l'histoire. Jésus lui-même le reconnaît. Alors, une dernière remarque. Le témoignage est plus important que le pouvoir. Nous sommes dans le rôle des témoins. Nous sommes la vitrine de ce royaume, le bourgeonnement perceptible de ce royaume, dans nos paroles, dans nos gestes quotidiens, dans notre communion fraternelle. C'est ainsi, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, que les hommes reconnaîtront que j'ai été envoyé par le Père. Le règne de Dieu se manifeste par l'amour fraternel, par la compassion, par la relation. Je suis en train de lire l'histoire de l'Amazonie, comme ça. Et à la retraite, on s'intéresse à beaucoup de choses. Et je lisais dans cette histoire que les Portugais, qui ont colonisé le long du fleuve de l'Amazonie, l'ont fait dans le sang, la violence, l'horreur. Et dans cette histoire, ils disaient que dans leur tête, ils voulaient établir le royaume de Dieu. Étendre le royaume de Dieu partout, comme si ça dépendait d'eux. Et quand on croit cela, quand on veut instaurer un règne, Hitler l'a cherché aussi, hein, 1000 ans. Ça ne se fait que dans l'horreur. Non, le règne de Dieu, ce n'est pas cela. C'est la relation aimante, apaisée, patiente. C'est l'accueil des autres, des migrants. Ça, c'est le royaume de Dieu. Il ne peut pas être démontré vraiment dans sa forme définitive, car cela n'appartient qu'à Dieu. Mais il peut bourgeonner dans nos vies. Vous savez, au printemps, quand on voit les arbres, les branches commencer à se gonfler, ce sont des bourgeons qui annoncent l'été. Jésus l'a dit. Eh bien, l'Église de Jésus-Christ est le bourgeonnement du royaume de Dieu. Nous ne devons pas confondre la mission apostolique, je ne parle pas de l'Église apostolique, là, la mission d'être envoyé par Dieu. Nous ne devons pas confondre cette mission avec un pouvoir de domination. Jamais. L'attente sera longue, puis il sera soudain présent sur la terre entière, à la vitesse de l'éclair. Il leur fera promptement justice. Et là, il y a un mot grec du Nouveau Testament qui a donné, par exemple, tachymètre. En takei, en taxi. Il vient en taxi. En taki, c'est-à-dire à toute vitesse. Il sera là soudain. Nous retrouvons cette soudaineté dans d'autres paroles de Jésus concernant la venue du royaume. L'image d'un voleur dans la nuit ou l'image de l'éclair. Dans l'impossibilité de savoir le quand, Alors les disciples s'inquièrent du « Où ?»« Où, Seigneur ?» La réponse est tirée du livre de Job. Là où il y aura des cadavres, là s'assembleront les aigles. N'y voyez rien de macabre. Ça veut simplement dire que personne n'échappera. Personne ne sera oublié. Le monde sera contraint d'accueillir toute la gloire du règne de Dieu en un clin d'œil. Dans le livre des Actes, au chapitre 16, Luc évoque l'ascension de Jésus comme un événement inaugural du temps avant-dernier. À l'impatience des disciples de voir enfin le triomphe final du Messie, vous vous rappelez, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Jésus répond, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Puis il les renvoie à leur appel missionnaire. La promesse de la venue du Saint-Esprit rendra toujours actuelle la personne de Jésus. Je l'ai déjà dit, le Saint-Esprit, c'est l'actualité de Jésus-Christ parmi nous et par nous dans la société. Oui, c'est par le Saint-Esprit que Jésus se rend présent, agissant, aimant, générateur d'espérance. Alléluia ! Inutile d'avoir la tête dans les nuages. Pourquoi regardez-vous vers le ciel ? Il les renvoie à eux-mêmes. Il leur appartient de rendre visible ce royaume dans leurs paroles, dans leurs gestes et par leur choix de vie. Nous sommes ce bourgeonnement du règne et Dieu, en son jour, viendra et complétera ce qui manque à notre fidélité. Il comblera ce qui sera resté imparfait, approximatif. Il viendra combler nos attentes. Je m'en réjouis de ce jour-là. N'est-ce pas ? N'ayons pas peur. Nous sommes dans ce temps avant-dernier. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Il faut remarquer cette coïncidence entre reine de Dieu et Fils de l'homme, parce que dans le prophète Daniel, les royaumes qui ont précédé le règne de Dieu sont présentés sous la forme d'animaux sauvages, cruels, sanguinaires. Vous connaissez ces visions de Daniel. Et juste après, il y a ce Fils de l'homme qui vient et qui reçoit la royauté éternelle. Dans toute sa fragilité, dans toute sa solitude, dans tout son dépouillement, c'est à lui que le royaume universel et éternel est remis. Alors, courage, frères et sœurs. Que notre prière monte jour et nuit devant Dieu. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je laisse la place à ma femme.